La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde.
En Amérique,
nous sommes là maintenant pour presque 3 siècles. Nous sommes américains.
L'écrivain africain-américain Richard Wright.
Je suis américain noir, mes ancêtres étaient des africains. J'ai une compassion pour des africains. Je voudrais essayer de comprendre le problème. Je voudrais travailler avec eux si je peux, mais pas comme un africain. Parce que je ne suis pas africain culturellement, je suis américain.
Richard Wright veut être un Américain comme les autres. Une aspiration partagée par toutes celles et ceux qui ont répondu à l'enquête historique menée par les deux sociologues africains-américains Sinclair Drake et Horace R. Caton dans les quartiers de Black Metropolis, au cœur du ghetto de la ville de Chicago. Une enquête devenue un classique de la socio-anthropologie urbaine, publiée aux États-Unis en 1945. Mais que raconte Black Metropolis de la réalité quotidienne des migrants noirs arrivés dans le bastion industriel du Nord? Comment sont-ils venus alors qu'ils fuyaient le racisme officiel des États du Sud? Comment ont-ils survécu et lutté pour leurs droits dans le ghetto urbain de Chicago? Et comment ont-ils organisé leur vie sociale et culturelle au rythme du blues de Chicago, genre musical qu'ils ont inventé? Autant de questions à évoquer avec nos invités Anne Rollin et Danielle Joly, directrices de la traduction en français de Black Metropolis, une ville dans la ville, Chicago, 1914-1945. On en rêvait tous, hein, et vous l'avez fait. 80 ans après sa publication, vous avez choisi, mesdames, de traduire aux éditions de la Maison de Sciences de l'Homme, dans votre collection Amérique au pluriel, cette somme incroyable qui a demandé l'énergie de dizaines d'enquêteurs afin d'établir et d'expliquer la réalité quotidienne des Noirs de Chicago par la recherche scientifique. Qu'est-ce qui vous a motivé pour traduire Black Metropolis, Anne Rollin?
Alors, ce livre, Black Metropolis, était en vérité un livre traitant d'une question qui devenait cruciale en France, à savoir, existe-t-il des ghettos en France ou non? Or, il y avait bien eu la traduction d'un livre précédent qui s'appelait Le ghetto et qui traitait du ghetto juif à Chicago. Et ce ghetto juif de Chicago avait en fait disparu au fil des décennies, tandis que ce livre, Black Metropolis, traitant du ghetto noir dans la ville de Chicago, traçait une histoire qui remontait au début du XXe siècle et qui est toujours d'actualité, et qui était inconnue au public francophone. C'est un livre qui était connu au sens où il était cité, au sens où on savait bien qu'il existait, mais beaucoup ne l'avaient pas beaucoup lu, mal lu, et qu'il y avait beaucoup à tout un matériau extraordinaire, remarquablement vivant, qui tranchait justement avec les textes fondamentaux de l'école de Chicago, qui sont très arides, très secs, je dirais, alors que là, il y a une écriture particulièrement émouvante, tout en étant très rigoureuse du point de vue scientifique. Et c'est ce mélange qui est remarquable. On a l'impression d'y être quand on lit Black Metropolis.
Danielle Joly.
Moi, je me suis approchée de la littérature américaine quand j'étais en Grande-Bretagne, pendant toutes mes années de recherche en Grande-Bretagne. Mais comme l'a dit Anne, ce livre est exceptionnel. Ce livre nous envoûte parce qu'il nous entraîne dans la vie quotidienne, dans tout ce dynamisme d'une communauté qui s'est reconstruite à partir d'une situation de désavantage telle. Et au cours de ma carrière, c'est toujours ce qui m'a fascinée, mais le ghetto de Chicago était encore plus contraint que les autres immigrés que j'ai pu étudier en Angleterre ou en France. Et contraint parce qu'un ghetto avait été constitué dont ils ne pouvaient pas sortir. Il n'y avait pas des barbelés, mais ils ne pouvaient pas acquérir des logements hors du ghetto. Et nous constatons que des populations qui sont ultimement désavantagées, puisqu'elles ont cet héritage de l'esclavage, puisqu'elles portent cet héritage de la discrimination de la couleur partout. Ça se diffuse dans tout le livre. Et en dépit de cela, nous voyons une vitalité, un dynamisme d'une communauté qui se reconstruit dans tous ces domaines, dans le commerce, les élites intellectuelles, des médecins, des associations, des églises, qui a une vie dans la politique, dans les syndicats, qui se reconstruit, qui regagne son agentivité, sa capacité d'action. Voilà, moi c'est ça qui m'a fascinée, mais aussi dans un style qui est pratiquement littéraire, tout en étant rigoureux. Ça a l'air un peu une platitude, mais c'est une fresque de vie qui se déploie sous nos yeux.
Et on va l'entendre. Alors Anne Rollin, vous êtes professeure émérite en anthropologie à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes spécialiste des minorités urbaines et des dynamiques mémorielles. Et vous vous êtes particulièrement intéressée, Anne, au destin des deux auteurs du livre Black Metropolis, que Richard White évoque dans la préface du livre qu'il signe en 1945. Voici ce qu'il écrit, et en plus en majuscule. « C'est avec enthousiasme et fierté que j'entreprends de présenter au lecteur l'étude intitulée Black Metropolis, une étape décisive pour la recherche et une réelle avancée scientifique. Avec Sinclair Drake et Horace R. Caton, les auteurs de ce livre, je m'identifie personnellement au contenu de cette enquête avec les deux auteurs, Sinclair Drake et Horace R. Caton, nous dit l'écrivain Richard Wright. » Pour quelles raisons, Anne Rollin, cette identification? Qu'est-ce qui les réunit?
Ce qui les réunit, c'est qu'ils sont tous les trois nouveaux venus à Chicago. Et pas du tout sur le même plan. Richard Wright, lui, en fait, c'est un migrant du Sud. Il est né à Natchez, donc dans un état du Sud, et il arrive à Chicago en 1927 comme un migrant. Et il va très vite se trouver confronté à la crise de 29, qui va lui compliquer la vie, je dirais, de toutes sortes de façons, mais en particulier parce qu'il ne trouve pas d'emploi. Et il fait toute une série de petits boulots qui lui font comprendre à quel point, même si Chicago n'est pas une ville dominée par une ségrégation raciale légale, néanmoins, toutes les institutions auxquelles il participe lui imposent un statut subalterne. Et donc, c'est une blessure terrible pour lui. Et il ne perd absolument pas de vue son projet d'écrire, parce qu'il s'était familiarisé avec la littérature, y compris la littérature européenne, dans les bibliothèques du Sud auxquelles il n'avait pas le droit d'adhérer, mais il trouvait toujours le moyen de passer outre. Et il va rencontrer ces deux auteurs. Il va rencontrer Horace Caton grâce à sa participation au cercle John Reed, qui était le club John Reed, qui était des lieux de rencontre entre blancs et noirs, d'obédience plutôt communiste, mais qui n'était pas lié directement au Parti communiste. D'ailleurs, il y aura beaucoup de conflits parce que le Parti communiste fera de l'entrisme dans les clubs John Reed.
Est-ce qu'ils ont en commun, tous les trois, la couleur de la peau?
Ils ont en commun absolument la couleur de la peau, mais il est clair que quand Richard Wright rencontre ces auteurs sont déjà des intellectuels assez confirmés.
Mais ils se sont battus pour ça.
Ils se sont battus pour ça, mais ils ont acquis, si vous voulez, une formation dans le domaine sociologique. Pour Caton, il est déjà l'auteur de plusieurs travaux sur les syndicats, justement. Et pour Sinclair Drake, il a participé à une grande enquête à Natchez, le lieu de naissance, justement, de Richard Wright, avec d'autres chercheurs blancs et noirs.
Si Richard Wright partage un parcours commun avec les auteurs de Black Metropolis, il partage aussi une conscience aiguë de la relation entre blanc et noir, comme il explique dans cette archive de 1960 où il évoque le personnage de Cross Damon, noir de Chicago, employé des PTT, marié, père de 3 enfants. C'est dans son roman Le Transfuge.
Le Transfuge, c'est un roman de noir intellectuel. Il est dans la vie moderne de la ville de Chicago, mais il n'est pas la preuve de son identité. Il cherche des papiers pour ça. Et si je suis entre le mari pour demander les papiers, je suis sûr qu'il y a des difficultés. Mais je suis noir. Les blanches pensent les noirs sont les gens stupides. Peut-être je peux tirer quelque chose de ça.
Il alla à la mairie et se présenta au guichet marqué « Extrait de naissance ». Quand vint son tour de se trouver en face du jeune employé blanc, il dit d'une voix plaintive et gémissante « Il m'a dit de venir ici pour prendre le papier ». L'employé battit des paupières d'un air agacé. « Quoi ? Le papier, monsieur. Mon patron m'a dit de venir et de le prendre. De quel genre de papier veux-tu parler, mon garçon ? Celui qui dit que je suis né. » L'employé sourit et puis se mit à rire. « Peut-être que tu n'es pas né, mon garçon. Es-tu sûr que tu es né ?» Cross cligna des yeux stupidement. Il vit qu'il rendait heureux cet employé mal payé. Sa stupidité feinte faisait que l'employé se sentait supérieur, blanc. « Eh bien, ils disent que je suis né. Si j'étais pas né, je peux pas rester à mon boulot. C'est pour ça que mon patron, il m'a dit de venir ici et de prendre le papier. » L'employé le regarda avec une bienveillance amusée, se retourna et cria derrière lui. « Dis, Jules, viens ici, tu vas te régaler. » Un autre employé, un peu plus âgé, s'approcha et demanda « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ce clown de mal blanchi dit qu'il est né quelque part, » dit le jeune employé. « Je ne le crois pas, » dit le plus vieux. « Oh si, monsieur, je suis né, » dit Cross, la bouche ouverte, les yeux agrandis de désespoir. « Peux-tu le prouver ?» dit le premier employé. « Ah, écoutez un peu, monsieur. Je n'ai pas fait rien à personne et surtout pas aux gens blancs, » gémit Cross, plein de détresse. « La pire chose que tu as jamais faite était de naître, » dit le plus vieux des employés. « Mais je n'ai rien fait de mal, monsieur, » protesta Cross. « Vous avez toujours tort, » dit le plus jeune. « Si je ne peux pas dire que je suis né, je perds mon boulot, » se plaignit Cross. Le plus jeune demanda « Dans quelle rue es-tu né sur la colline ?» « Et à quelle date es-tu né ? Comment t'appelles-tu ? Tu as un nom, je pense. »« Oui, monsieur, ils m'ont donné un nom. »« Mais, vous savez, » dit Cross, l'air stupéfait, « ils disent que vous avez tous les noms ici. » Les deux employés étaient pliés en deux d'hilarité, et tandis que Cross était là à leur dicter leur réaction, ils savaient exactement quelle sorte de personnage il jouerait pour tuer tout soupçon s'il lui arrivait des ennuis. Dans son rôle de nègre ignorant et effrayé, tous les hommes blancs, excepté le peu d'entre eux qui n'avaient pas le préjugé racial de leur groupe, se précipiteraient toujours à sa rescousse pour lui fournir des antécédents et une identité. Ils projetteraient tous sur lui leur propre conception du nègre derrière laquelle ils pourraient se cacher en toute sécurité. Deux heures plus tard, Cross avait l'extrait de naissance de Lionel Lane et il avait laissé dans l'esprit des employés une image de nègre que la nation aimait et dont ses employés parleraient dans l'avenir avec une affection méprisante. Il savait qu'au fond de leur cœur, ces deux employés blancs savaient qu'aucun être humain sur Terre n'est aussi obtus qu'il avait prétendu être. Mais ils voulaient, ils avaient besoin de croire cela des nègres. Et cela les aidait à se sentir racialement supérieurs. Il se jouait la comédie tout autant qu'il avait joué la comédie lui-même. Mais quelquefois, peut-être, les hommes jouaient la comédie pour des enjeux beaucoup plus grands et beaucoup plus graves.
La voix du comédien Michel Bouquet, interprète du livre de Richard Wright, Le Transfuge, où est décrite cette relation de méfiance viscérale entre noir et blanc, y compris dans le Nord, où la ségrégation n'est pas légale. C'est aussi une question que Richard Wright partage avec les deux auteurs de Black Metropolis. Daniel Joly, vous êtes sociologue, professeur émérite à l'université de Warwick et spécialiste des questions d'intégration, de discrimination et d'asile en Europe. Et à travers Black Metropolis, vous vous intéressez donc à cette migration massive d'Africains américains depuis les États du Sud vers cette ville de Chicago. Qui sont-ils, ces femmes et ces hommes ? Que fuient-ils ? Et comment font-ils pour atteindre la ville de Chicago ?
Alors, il y a eu plusieurs vagues de migration. La première ayant eu lieu à l'époque de l'esclavage. Et donc, une des motivations principales, c'était la fuite vers la liberté. Des conditions d'esclavage dont on connaît les détails à l'heure actuelle, mais qui était accompagné non seulement de discrimination, de violences physiques, psychologiques, mais aussi de lynchage, où les esclaves, par définition, n'avaient aucun droit. Et tout un mécanisme s'était mis en place, qui a été lancé par des Noirs libres, qu'ont rejoint ensuite des abolitionnistes blancs et des pasteurs, et qui ont créé ce qu'on appelait le chemin de fer clandestin, Underground Railway, et il ne s'agit pas bien sûr d'un chemin de fer, mais d'étapes qui étaient organisées jusqu'à se cacher dans des bottes de foin, sur des charrettes, avec des caches le long du chemin, et qui les a amenés à Chicago. Pourquoi Chicago ? Chicago déjà était situé dans un état du Nord où il n'y avait pas d'esclavage, bien entendu, mais aussi au bord du lac Michigan. Et après ce qui a été le compromis de 1850, quand la tâche a été facilitée pour les propriétaires d'esclaves de venir faire la chasse à leurs esclaves évadés à Chicago même ou dans les États libres, ce qu'on appelait les États libres, eh bien, quand la rumeur qui était d'ailleurs alertée par les médias noirs de Chicago, alertée à propos de chasseurs d'esclaves qui allaient débarquer dans la ville, eh bien, l'échappatoire, c'était le lac, puisque on pouvait le traverser et se retrouver en Canada, en Angleterre, où il n'y avait pas d'esclavage.
Donc ça, c'est la première vague, mais qui était suivie de beaucoup d'autres.
Ça, c'est la première vague. Il y a eu aussi bien d'autres, mais une notable qui est celle de la Grande Migration, au moment où Chicago explose comme moteur économique. Ouais. De l'Amérique, avec de nombreuses industries, machines agricoles, viande, etc. Et dans ce cas, rappelez-vous que dans le Sud, il n'y avait plus d'esclavage, mais il y avait encore la ségrégation inscrite dans la loi. Mmh. Il fallait donc franchir cette ligne qu'on appelait la Mason-Dixon Line, qui départage les États libres et les États ségrégationnistes, et donc partir à Chicago pour y trouver un emploi, mais aussi une vie meilleure.
Alors, cette ville moderne, en pleine croissance industrielle, que vous décrivez, Daniel Joly, en pleine croissance commerciale, qu'est-ce que révèle donc cette enquête que vous avez traduite avec Anne Relin ? Qu'est-ce que les nouveaux arrivants apprécient ? Pourquoi aiment-ils Chicago ? Puisque c'est même une des questions posées par cette enquête.
Oui, l'enquête qui est tellement fouillée et qui va au plus près du vécu de ces enquêtés nous livre un certain nombre de commentaires que je vais citer. Pourquoi appréciez-vous Chicago ? Ah oui, plus d'endroits où aller, des parcs, des terrains de jeux pour les enfants. Pas de différence entre les gens de couleur et les blancs. On n'a pas à s'abaisser devant le blanc. On n'a pas à se placer dans le poulailler au spectacle. Pas de lâchage.
Mais ça, c'est
pas énorme. De peur des bandes. Je peux m'exprimer et me défendre. Et chose intéressante aussi, c'est non seulement la liberté de fréquenter tous les lieux publics, les transports publics, disent-ils, m'asseoir dans le tramway où je veux. Alors que dans les États du Sud, bien sûr, il y avait des parties des autobus ou des transports en commun réservés aux Noirs. Et celui-là qui est délicieux, « Ici, ma femme peut faire confectionner ses vêtements. Elle peut essayer un chapeau et si elle n'en veut pas, elle n'est pas obligée de le garder. »
Je crois qu'on a du mal à s'imaginer ce que les Africains-Américains ont subi et à travers leur parole, puisque cette enquête leur donne la parole, une parole que vous nous restituez en français, grâce à cette traduction commune avec Anne Relin pour ce Black Metropolis, on peut imaginer ce que c'est que la condition noire. C'est une respiration incroyable d'arriver à Chicago. On respire, hein. On fait plein de choses pour la première fois. Vous venez de nous le dire, les Africains-Américains ont gagné une liberté de circulation, mais ils ne peuvent pas loger où ils le souhaitent. Ils sont contraints géographiquement, Anne Relin, dans un quartier, alors que la ségrégation n'est pas légale à Chicago. Daniel Joly vient de le rappeler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être confiné dans un espace géographique, alors que la ségrégation n'est pas légale à Chicago ?
Cette grande migration, elle suit en fait une implantation comparable à celle des autres migrations, à savoir, au départ, elle se constitue en colonie dans la partie sud de Chicago. Mais l'afflux considérable. Ça passe de 40 000 à 110 000 du début de la guerre à la fin de la guerre de Première Guerre mondiale, fait que les frictions avec la population, les populations blanches vont être extrêmes, extrêmes et déclencher des attaques, des violences souvent des attaques à la bombe contre les habitations dans un premier temps. Donc cela dans les années 1919-1920 qui vont aussi connaître des émeutes entre noirs et blancs. Et progressivement, alors ce qui est très important de comprendre, c'est que la venue de ces migrants du Sud à Chicago, donc dans une ville, va provoquer une différenciation en termes de classe sociale extrêmement importante. Il y aura donc constitution d'un prolétariat noir, mais aussi constitution d'une classe moyenne noire et d'une classe supérieure noire. Et dès que, comme pour les autres colonies de migrants, dès que ces migrants atteignent un certain statut social de classe moyenne, ce qu'ils désirent, c'est un bon logement. Et ils vont bien sûr chercher à quitter le ghetto et à s'installer dans des quartiers qui sont plus aisés.
Alors comment vont réagir les propriétaires blancs de ces logements ?
Très précisément, là c'est plutôt vers la fin des années 20, il y aura donc la constitution de ce qu'on a appelé les restrictive covenants, mais donc les clauses restrictives, qui sont en quelque sorte des accords passés entre les propriétaires blancs pour empêcher que soit vendu, loué ou prêté même à des habitants noirs des logements dans les quartiers blancs. Et ces clauses restrictives ont été extrêmement effectives à Chicago. Elles existaient dans tous les États-Unis, contre les Chinois, contre les Juifs, etc. Mais là, ça a été d'une remarquable efficacité.
Anne Rollin, vous avez évoqué ces émeutes de 1919, vous avez évoqué ce confinement dans ce ghetto qui s'organise peu à peu et où les Africains-Américains sont à la merci de ces propriétaires blancs, donc une tension. Vous avez évoqué aussi le fait qu'il y a des rivalités, il y a d'autres migrants venus chercher du travail à Chicago, comme en témoignent justement ces émeutes de 1919, décrites par l'historien Pape Diaye en 2016, où l'on apprend que les migrants irlandais s'en sont pris aux Africains américains.
Ce sont les jeunes Irlandais qui sont en première ligne contre les Noirs en 1919. Ça, c'est en raison d'abord de la migration irlandaise vers Chicago, qui est très très importante à partir de la fin des années 1840, lorsque des centaines de milliers d'Irlandais quittent une île qui est en proie à la fameuse famine des pommes de terre. Et ils sont mal accueillis, ils sont considérés comme des catholiques d'abord, mais aussi des alcooliques, enfin des gens bons à rien. Dès lors, les Irlandais sont dans une situation qui les rapproche en quelque sorte du monde noir. On a pu parler des Irlandais comme étant les Noirs de l'Europe. Et donc ils veulent se distinguer d'autant plus du monde noir que eux peuvent souffrir aussi de stigmates ethno-raciaux qu'ils connaissent depuis un demi-siècle. Donc les Irlandais sont particulièrement agressifs. Donc il y a quand même une ville, Chicago, qui est structurée par des règles implicites de ségrégation que les ouvriers irlandais, lituaniens et les autres appliquent avec beaucoup de force en mobilisant les fameux clubs athlétiques, c'est-à-dire ces clubs sportifs de jeunes gens qui ont souvent des gourdins et des battes de baseball et qui font régner en quelque sorte la loi raciale dans la ville. L'émeute de 1919 de Chicago a cette caractéristique, cette originalité par rapport aux émeutes précédentes, c'est que pour la première fois, les Noirs répondent. Tabasse et tue aussi un certain nombre de jeunes Irlandais ou même de policiers. Sur les 38 ou 40 morts de l'émeute, 28 sont noirs, mais un peu plus d'une dizaine sont blancs. Ça, c'est quand même l'originalité de l'événement à Chicago. Cette fois-ci, des jeunes noirs décident de répondre. Ce que tout le monde note d'ailleurs à travers tous les États-Unis à partir d'août 1919.
La voix de Pape Ndiaye, une archive de la Marche du Monde sur RFI, où l'on comprend que les Africains américains de la Black Métropolis de Chicago ne se laissent pas faire. Daniel Joly, et ce n'est qu'un début. De quelle façon cette lutte va-t-elle s'organiser, et plus particulièrement la lutte syndicale à l'usine ?
La lutte syndicale est très intéressante parce qu'elle est caractéristique du monde anglo-saxon. Dans le sens où les syndicats sur le modèle anglo-saxon, ont une particularité. Les premiers qui ont été fondés sont ce qu'on a appelé les craft unions en 1886, donc il y a longtemps, mais des syndicats qui ne regroupaient que les métiers qualifiés. Et ils exerçaient, ensuite d'être syndicats de métiers qualifiés, ce qu'on appelle le closed shop, c'est-à-dire en accord avec l'entreprise, ne pouvaient trouver un emploi qu'une personne syndiquée.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle les syndicats corporatistes, hein ?
C'est plus que ça.
C'est plus que ça.
Et ils exerçaient un barrage infranchissable pour les Noirs. Donc les Noirs ne pouvaient pas se syndiquer et ne pouvaient pas trouver de ces emplois qualifiés. Or, la masse ouvrière noire s'amplifie et augmente considérablement. Il représente un poids dans l'usine, de même que les métiers non qualifiés. En 1935, une scission a lieu au sein du syndicat et un nouveau syndicat se forme, le Congress of Industrial Organization.
C'est là, les règles changent. Hein.
C'est un nouveau syndicat qui, lui, au contraire, si je puis dire, met le paquet, vraiment entreprend une stratégie complète, presque programmatique, pour recruter les ouvriers noirs.
Ben, il y a une masse d'ouvriers à capter et donc un nouveau pouvoir à exercer.
Bien sûr. Et aussi, ils se rendent compte que pour gagner les grèves, les grèves se mettent en route.
Alors ça, c'est
très intéressant. Il faut que les noirs et les blancs soient côte à côte.
C'est très intéressant, Daniel Joly, parce que là, il y a une rencontre entre noirs et blancs, des intérêts communs, ouvriers, et puis une revendication extraordinaire, c'est la journée de 8 heures.
La journée de 8 heures et la reconnaissance syndicale, parce que beaucoup d'entreprises ne voulaient pas reconnaître les syndicats. Alors, il faut que j'ajoute quand même que ce processus a été facilité, il faut le dire, par ce qu'on a appelé la loi Wagner, c'est dans le cadre du New Deal de Roosevelt, qui accordait une protection aux syndicats et aux syndicalistes.
Est-ce que du coup, ça a eu un impact sur l'engagement politique des Africains américains qui, jusque-là, votaient plutôt pour le parti républicain, je dirais en hommage en quelque sorte au président Lincoln qui a aboli l'esclavage?
Alors, déjà, il faut dire que les Africains-Américains se sont engagés fortement dans la politique à Chicago. Ils avaient le droit de vote dès 1870, et les femmes dès 1919-1920.
Ça fait rêver les Françaises, hein ?
Et ils ont compris qu'il y avait des gains substantiels à s'engager dans la politique. Bien sûr, ils ont transformé leur concentration géographique, qui était un handicap, en avantage, puisqu'ils avaient une force politique où vous pouvez faire basculer les votes. Et effectivement, ils étaient restés fidèles au Parti républicain, en honneur à Lincoln, mais avec Roosevelt, qui, d'une part, a accordé le New Deal, mais aussi a fait des déclarations qui les ont captivés, puisqu'il a déclaré qu'il croyait, je le cite, « en l'égalité des chances pour tous les hommes », indépendamment de la race, de la confession et de la couleur. Aucun président n'avait dit une chose pareille.
Ce sont des espoirs qui naissent évidemment dans la communauté africaine-américaine. Anne Rollin, des espoirs qui s'expriment aussi à l'Église. On sait combien les pasteurs se sont impliqués dans la lutte pour les droits civiques. Qu'est-ce que l'Église, justement, en dehors du champ syndical et politique, qu'est-ce que l'Église représente pour la communauté africaine-américaine à Chicago ?
C'est une institution absolument fondamentale. Il y a tout un chapitre de Black Metropolis, le livre donc, dont il est question, sur le pouvoir de la presse et des églises. Parce qu'effectivement, cette minorité est entièrement structurée par ses appartenances religieuses. Et l'analyse qu'en font Sinclair Drake et Horace Caton, c'est qu'on retrouve donc cette même, je dirais, hiérarchie sociale en relation avec les églises. Et il y a des églises qui sont plutôt populaires, d'autres qui sont classe moyenne et d'autres qui sont classe supérieure. Mais toutes concourent à l'avancement de la race. C'est ça, là, je dirais, ce qui fait de l'église, avec un grand œuf, si vous voulez, de cette institution, une dynamique remarquable. Et effectivement, les pasteurs ont un rôle de leaders d'opinion qui relayent à la fois les leaders politiques et aussi qui créent une certaine forme de culture commune. Alors, culture commune, mais néanmoins très différenciée. Et précisément, les églises populaires ont fortement imprégné cette culture. Ce sont les églises populaires qui ont développé une forme, je dirais, de gospel blues, c'est-à-dire une jonction entre différents registres musicaux, sacrés, profanes, jazzy, populaires. Ces registres, au départ, étaient totalement étrangers aux églises de la classe supérieure. Et puis, progressivement, ils ont pénétré ces audiences. Et finalement, c'est devenu un genre tout à fait dominant dans des églises de Chicago, avec des personnalités musicales remarquables, comme Thomas Dorsey, l'auteur donc de Precious Lord, Take My Hand.
Precious Lord, take my hand. Lead me on, let me stand. I am tired.
Du gospel, Malia Jackson, sur RFI, l'une des voix de la Black Métropolis de Chicago, enquête sociologique enfin traduite en français par nos deux invités Daniel Joly et Anne Rollin, et publiée aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, 80 ans après sa première publication en 1945. Malia Jackson, venue de son sud natal, ouvre une boutique pour les pauvres et les SDF à Chicago. Elle devient l'une des premières voix de la Greater Salem Baptist Church. Elle rejoint bientôt Thomas Dorsey, véritable pionnier du gospel moderne. C'est un long compagnonnage avec Thomas Dorsey et également ensuite avec le pasteur Martin Luther King. On reconnaît d'ailleurs parfois à Malia Jackson l'inspiration de son fameux discours à King, I have a dream. Mais quel rôle, Anne Rollin, tiennent les femmes dans les réseaux de sociabilité, de solidarité? Comment s'organise-t-elle à Chicago?
On peut repartir justement de ces institutions religieuses et dire que plus les églises sont populaires, plus elles sont menées par des femmes, et plus elles sont respectables, plus le clergé devient masculin. Et il y a un très beau chapitre de Black Metropolis qui parle de ce monopole masculin des églises baptistes et méthodistes, qui sont les églises de la classe moyenne et supérieure. Les femmes ne sont pas que dans les églises, elles sont effectivement dominantes, et comme fidèles, et comme organisatrices dans les églises populaires, mais dans la classe moyenne, les femmes s'organisent en clubs.
Ah, ça, c'est très, très drôle. Oui. Parce qu'il y a des noms de clubs qui ne sont pas piqués des verres, quand même.
Ah oui, les noms de clubs sont absolument remarquables. Snappy, sophisticates, mais aussi beaucoup de mots, beaucoup de noms français.
Par exemple.
Parce que Mais les petites chéries, les jolies douces, les uniques femmes, voilà de quelques mots français, non français, qui, comme aujourd'hui, ici en France, et bien pour faire chic, on prend un nom anglais. Donc là, c'était l'inverse, évidemment. Et ces clubs sont extrêmement actifs. Ce sont vraiment des clubs de sociabilité qui comportent en moyenne une douzaine de personnes et elles ont des activités qui sont justement assez mal perçues par les églises de classe moyenne et supérieure, qui sont des églises très rigoristes. Et là, au contraire, eh bien, ces clubs organisent en particulier des balles payants. C'est-à-dire qu'ils se forment à des activités, je dirais, ils se lancent dans l'événementiel. C'est vraiment une capacité de l'événementiel, avec des publicités dans les journaux africains-américains, dans le Chicago Defender en particulier, avec une visée aussi financière, qui est de constituer un petit capital, alors qui va servir soit des actions de charité, d'entraide donc, ou bien même à former ses propres entreprises. Et les femmes sont très présentes dans les services cosmétiques.
Les clubs, les petites chéries ou les uniques femmes, ce sont les clubs des femmes africaines-américaines de Chicago qui organisent des bals et la classe noire la plus aisée se sape pour aller danser et se montrer dans la grande salle du Savoy sur un air par exemple de Jelly Roll Morton. Ici c'est Winnie Boy Blues. Alors dans ces dancings et ces tripots aussi de Chicago, on croisait le roi de la pègre, Al Capone, qui a vu son apogée dans les années 20. Al Capone, maître de l'économie informelle à Chicago, roi de la corruption des juges et de la police. Du coup, on se demande quel lien existait entre les Africains-Américains de Black Metropolis et la pègre. Anne Roland.
Sur ce sujet, il n'y a aucune donnée dans cet ouvrage Black Metropolis.
C'est pour ça que je vous pose la question, justement.
Avec la pègre blanche.
Est-ce que c'est tabou ?
C'est possible. Oui, je pense qu'il y a eu peut-être une autocensure.
Parce qu'on imagine que Capone et ses lieutenants ne gênaient pas pour faire des sales boulots par des petits blancs et par des petits noirs aussi, comme on dit.
À moins qu'il y ait eu un rapport de rivalité.
Daniel Joly.
Plutôt un rapport de rivalité. C'est-à-dire ? Ils ont leur domaine. La pègre joue un rôle très très important. La pègre, c'est une économie souterraine qui sous-tend l'économie subterraine.
Alors qui est le Al Capone africain-américain ?
Il y a un certain nombre de noms qui sont aussi, alors il faut ajouter que ces leaders de la pègre, je n'ai pas de nom à l'exprimer, ces leaders de la pègre sont aussi parfois des leaders de la race. Puisque nous avons parlé de ces leaders de la race qui promeuvent la fierté de la race, qui font avancer la race, c'est-à-dire dans tous les sens du mot, hein, soit pour obtenir davantage de droits, davantage d'emplois, une image plus prestigieuse, plus autoritaire et morale. Mais même certains leaders de la pègre figurent parmi les leaders de la race aux côtés des hommes d'affaires, des pasteurs, des intellectuels, de ceux qui font campagne pour les droits des Africains-Américains, y compris certaines femmes, comme Ida Wells, pas dans la pègre, hein, mais qui fait campagne pour les droits des Africains-Américains avec la NAACP. Et je pense que c'est leur domaine à eux, parce que, effectivement, quand vous avez posé la question, je suis restée muette parce qu'il n'y avait rien à dire sur cet échange entre...
En tout cas, la pègre noire est bien présente et quand on est discriminé, exploité, on fait feu de tout bois, ce que dénonce régulièrement la presse noire, hein, cette exploitation et cette discrimination des Africains-Américains. Et notamment, vous l'avez déjà cité, Anne Rollin, ce mythique Chicago Defender évoqué par l'historien Pape Diaye.
Le Chicago Defender est ce journal afro-américain qui est créé au début du XXe siècle, mais qui prend son essor dans les années 1910 et qui devient la principale publication noire des États-Unis. Le Chicago Defender est lu dans tout le pays, bien au-delà de Chicago. Il est transporté en particulier par les trains, puisque Chicago est la capitale du rail, et donc les exemplaires du Defender se diffusent dans le sud des États-Unis. Et c'est dans le Defender qu'on trouve d'ailleurs des articles qui appellent la population noire à s'installer à Chicago. C'est, le Defender se fait un grand militant de la grande migration vers Chicago, en même temps qu'un grand militant contre les lynchages qui se multiplient à cette époque dans le sud des États-Unis. C'est une publication qui a eu beaucoup d'importance tout au long du XXe siècle pour beaucoup d'Américains. Et c'est un journal qui a été un journal en quelque sorte militant pour une représentation politique des Noirs dans les échelons municipaux de Chicago. En tête en particulier les grandes unes du Chicago Defender dans les années 50, en 55, lorsque le jeune Emmett Till, qui était un jeune adolescent de Chicago, a été martyrisé et tué dans des circonstances atroces dans le sud des États-Unis, soi-disant pour avoir fait un clin d'œil à une femme blanche. Le Chicago Defender a publié la photo du visage défiguré d'Emmett Till au moment de ses obsèques, ce qui a été un moment très important pour les débuts du mouvement pour les droits civiques.
Le rôle du journal Chicago Defender, rappelé par Pape Diaye, pour une communauté noire, Daniel Joly, qui a quand même, par exemple, obtenu de pouvoir travailler dans les usines d'armement à Chicago pour l'effort de guerre. Ça, c'est une victoire.
C'est une victoire. C'est aussi un témoignage, par leur effort pour l'obtenir, de leur américanité. S'identifier à la réussite des États-Unis, le mot d'ordre de la réussite de Chicago, l'esprit sportif, s'identifier aux libertés, la liberté d'opinion, de la presse, de réunion, de religion, se battre pour la liberté. Et beaucoup se sont investis dans l'industrie de guerre et se sont investis aussi dans la guerre d'ailleurs, dont ils ont fait l'expérience en Europe avec des droits bien supérieurs en Europe, qu'ils pouvaient devenir chauffeurs de train, alors que c'était impossible d'avoir cette responsabilité aux États-Unis. Et donc, des gains et une expérience positive. Le résultat d'une lutte aussi est de savoir qu'on a réussi. Mais malheureusement, tout n'est pas rose dans cette expérience.
Anne Rollin, que reste-t-il finalement pour les Africains-Américains de cette expérience de la Seconde Guerre mondiale où, comme vient de le dire Daniel Joly, il y a eu des gains? Mais il y a eu aussi une expérience très amère.
Très amère parce que, en particulier, la ségrégation dans l'armée a été véritablement une blessure terrible. Et donc, par exemple, le Chicago Defender a promu toute une campagne de la double victoire, c'est-à-dire que c'était la victoire du monde libre à l'extérieur des États-Unis, mais ça devait être aussi la victoire de la liberté pour les Noirs aux États-Unis même. Et donc, la Seconde Guerre mondiale a, je dirais, ouvert l'horizon de cette minorité noire américaine, mais à l'ensemble du monde. Et elle se trouve alors en phase avec tous les mouvements de décolonisation qui vont se mettre en place à partir des années 50. Et nos trois auteurs, si on peut dire, si on inclut Richard Wright parmi les auteurs de Black Metropolis, se sont tous les trois, investis en fait dans des luttes qu'on pourrait appeler tiers-mondistes à l'époque. Alors chacun à leur façon. Richard Wright émigre en France, mais il sera extrêmement présent justement dans la fondation de cette librairie, édition, revue qui est Présence africaine. Et il participera à la conférence de Bandung en 1955, donc conférence des pays non alignés, pour trouver justement une voie hors des deux blocs américain et russe, union-soviétique, de la guerre froide.
Et pour les deux autres?
Et pour les deux autres, Sinclair Drake, lui, aura une destinée remarquable puisqu'il va en fait devenir un collaborateur de Nkrumah.
Au Ghana. Nkrumah, premier président du Ghana indépendant.
Exactement. Il y fondera un département de sociologie. Il y travaillera avec sa femme, qui était aussi sociologue. Et en fait, il va être, je dirais, le premier observateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la diaspora noire ou le Black Atlantic, donc cette circulation entre l'Afrique et l'Amérique. Et il en fera, ce sera son dernier ouvrage.
Et enfin, pour le troisième?
Et pour le troisième, alors Horace Caton, lui, il va être correspondant d'un autre journal africain-américain qui s'appelle le Pittsburgh Courier, à l'ONU. Et là, à l'ONU, il va rencontrer tous ces nouveaux chefs d'État africains et découvrir une dimension qu'il n'imaginait absolument pas, à savoir que on peut être noir et pas une minorité.
Sweet Home, Chicago, en version originale, 1936, par le légendaire Robert Johnson, pour saluer votre travail, mesdames, et vous remercier de nous permettre de lire en français Black Metropolis, une ville dans la ville de Chicago, 1914-1945. Merci à vous deux.
Merci à vous.
Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin. Black Metropolis, une autre histoire de Chicago, est à réécouter sur notre appli RFI Pure Radio, rubrique Histoire. Abonnez-vous à notre podcast, réagissez sur notre page Facebook. Cette émission, c'est la vôtre.
California, from 1,000 miles away. Somebody will tell me that you need my help someday. Hey, hey, baby, don't you want to go? Hey, to the land of California, to my sweet home, Chicago.